Moi, je voulais effectivement intervenir sur un point qui me semble essentiel, parce que c'est vrai, au-delà des, on va dire, des aspects techniques et opérationnels qui vous ont déjà été présentés ou qui vous seront encore présentés au cours de ce colloque-là, il y a quand même effectivement tous les enjeux liés à la coordination ou au management qui sont essentiels dans la prise en compte effectivement de cet enjeu de la qualité de l'air intérieur des bâtiments. On a les premiers retours d'expérience qui nous ont été, qui nous ont permis de tirer des enseignements dans le cadre de l'application de la méthode Écrin, nous ont montré que déjà la question de la gestion du planning était une question assez centrale, parce que tout le monde n'a pas la même réalité finalement on va dire, cette échelle de temps qui donne le cadre d'intervention à chacun des corps de métier dans le cadre de la réalisation d'un projet de construction neuve ou de réalisation. Et très souvent, les enjeux de commercialisation eh bien, mettent à mal effectivement l'engagement d'acteurs qui peuvent être volontaires, que ce soit les artisans, donc les différents compagnons, ou que ce soit même l'équipe de maîtrise d'œuvre dans la conduite d'un projet. Je prends un seul exemple. Le temps de séchage d'une dalle ou d'une chape est un temps de séchage incompressible. Il est lié effectivement à la réaction chimique qui va permettre effectivement d'apporter les caractéristiques structurelles suffisantes pour sa tenue. C'est quelque chose qui est variable en fonction des conditions climatiques, en fonction d'un certain nombre de facteurs, mais qui ne peut pas être inférieur à une quarantaine de jours dans tous les cas. Et le temps de séchage, ce n'est pas le temps de prise. Voilà. Ça, c'est un facteur qu'on a un peu tendance à oublier parfois sur les chantiers. Et donc, quand typiquement, il y a effectivement un revêtement vinylique qui est collé sur une dalle qui n'est pas sèche, que ce soit, il y a une réaction chimique qui se crée avec les colles ou les primaires d'accroche, qui font qu'il y a un dégagement de composés organiques volatiles qui sont à l'origine de pollution et que l'on retrouve parfois dans le fameux syndrome des bâtiments malsains. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple simple qui montre que. Même si les réalités économiques font parfois que il faudra aller vite, soit parce qu'effectivement il faut livrer l'école avant la rentrée du mois de septembre, soit parce que effectivement il y a un retour sur investissement qui est nécessaire pour un investisseur, eh bien il ne faut pas perdre de vue quand même que si on met un an pour construire une Ferrari, c'est qu'il y a une raison, quoi. Voilà. Ça peut être une Ferrari dans le domaine du bâtiment. Il n'y a pas de secret en la matière. Et donc, le respect des règles de l'art est quand même quelque chose d'essentiel en ce sens-là. Il y a un deuxième point qui est, à mon avis, aussi important, alors qui n'est pas spécifique au sujet de la qualité de l'air, mais la qualité de l'air intérieur le révèle encore une fois de plus. C'est la nécessité, effectivement, d'avoir une bonne interconnexion, entre une bonne articulation entre les différents corps de métier. À la fois pour assurer des bonnes conditions de réception des différents lots et l'application des contrôles qui vont finalement entériner cette réception-là. Hein. Personne aujourd'hui ne peut être exclusivement garant de la bonne application de l'objectif que l'on met derrière la qualité de l'air intérieur, en tout cas pas un seul corps de métier, et donc c'est une espèce de co-responsabilité qui existe dans le bâtiment. C'est quand même un sujet nouveau, tout le monde ne peut pas appréhender, ou en tout cas ne peut pas prétendre maîtriser l'entièreté du processus. C'est effectivement quelque chose qui relève quand même d'une approche un petit peu complexe, et donc il faut l'aborder humblement. C'est-à-dire qu'il faut que les corps de métier, que les différents acteurs réapprennent à communiquer, y compris quand ils ne sont pas en mesure de garantir un processus qu'on leur demande de mettre en œuvre, ou quand ils n'ont pas la certitude d'être en capacité de livrer les choses conformément aux exigences qui leur sont données. Voilà. Un artisan, s'il n'a pas un maçon, effectivement, s'il n'est pas certain d'avoir livré une dalle voilà, avec une qualité de séchage de l'ouvrage qui soit suffisante, il faut qu'il soit en capacité de dire, ben, moi je ne suis pas garant finalement de la bonne qualité de l'ouvrage, il faut qu'on puisse diligenter des mesures pour que le corps de métier qui va intervenir sur la pose du revêtement puisse le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc je pense que c'est une question d'honnêteté finalement.
Et de respect des règles de l'art.
De respect des règles de l'art bien entendu, mais qui engage quelque part cette responsabilité collective des acteurs et qui doit obliger à dépasser. Alors c'est vraiment un changement de paradigme parce que du coup on passe d'une logique qui est d'une logique de quelque part de déchargement, où on cherche à se dédouaner d'une faute potentielle, à une logique de co-responsabilité qui fait qu'on est tous garants de cet objectif-là et on doit être solidaire dans l'atteinte de l'objectif, quoi. Voilà. Donc la question de la communication, finalement, entre les corps de métier, c'est une question qui est essentielle. Et je pense que le sujet de la co-responsabilité, qui est un sujet qui a été mis en exergue lorsque l'on a parlé donc avec la RT 2012 de l'objectif d'étanchéité à l'air, c'est quelque chose qui est de nouveau revisité avec la question de la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Voilà. Et puis je voulais aborder peut-être un troisième point qui me semble aussi essentiel. Alors, il y a tout ce qui est lié aux soins apportés, on va dire au stockage des matériaux sur chantier. Donc là, je laisserai par exemple Charline ou d'autres en parler peut-être par la suite. Et aux soins qui est lié à la mise en œuvre des matériaux. Parce que là aussi, effectivement, on a un certain nombre de facteurs ou d'aléas qui font que, de même avec toute la bonne volonté du monde, on n'arrive pas à atteindre ces objectifs de qualité de l'air intérieur. Marie-Angèle a évoqué tout à l'heure l'exigence liée derrière la qualité de la pose, par exemple, de l'isolant. C'est vrai que la pose de l'isolant doit se faire de façon jointive. Même quand on a affaire à un artisan qui le fait de façon consciencieuse, il n'a pas toujours la maîtrise, effectivement, de cette exigence-là si le concepteur n'a pas établit les carnets de détails qui lui permettent d'éviter, par exemple, l'existence de ponts thermiques à l'interface entre différents éléments de l'ouvrage et qui vont faire qu'il y aura effectivement une déperdition incontrôlée de chaleur et l'apparition de moisissures qui seront à l'origine de problèmes de qualité de l'air intérieur. De la même façon, on a évoqué assez largement jusqu'à maintenant la question centrale du renouvellement d'air. Bon, il faut savoir que dans les systèmes de ventilation, en particulier dans tout ce qui est conception des conduits rigides qui interviennent dans la ventilation double flux notamment, le procédé de fabrication fait qu'on utilise des huiles pour la fabrication effectivement de ces conduits rigides. Et ces produits, ces conduits sont livrés généralement sans nettoyage. Et donc quand on entrepose effectivement ou quand on met en œuvre des conduits rigides, et qu'on le fait sans avoir préalablement nettoyé les conduits ou bouchonné pour éviter qu'il y ait effectivement une contamination par les poussières au moment du chantier, et bien lorsqu'on met en service effectivement une ventilation, simple le flux très généralement, et bien on met en œuvre un système qui est le principal facteur de contamination de l'air intérieur si ces mesures de précaution n'ont pas été prises. Donc le soin que l'on apporte effectivement au stockage et à la mise en œuvre des matériaux, des équipements, est quelque chose d'essentiel, mais quelque chose qui ne doit pas reposer uniquement sur les épaules de l'artisan, puisque aujourd'hui, par exemple, pour livrer effectivement des conduits rigides, bouchonnés, nettoyés, sortis d'usine, c'est quelque chose qui n'est pas très simple, et c'est quelque chose qui, économiquement, n'est pas toujours acceptable au sens de la construction.
C'est très intéressant le parallèle qu'on fait en fait entre l'étanchéité à l'air et la ventilation. Le fait que donc cette organisation tout au long du chantier, de voir qu'il y a différentes responsabilités, il faut que les artisans se parlent entre eux. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'étanchéité à l'air. On a réalisé des carnets de détails, les carnets mininfil. Et en fait, la personne qui a dessiné les schémas se disait, si moi j'ai du mal à le dessiner, mais alors les pauvres qui seront sur le chantier, ils auront encore plus de mal à mettre en œuvre, parce qu'il faut réfléchir, faire en sorte que tout soit jointif et qu'il n'y ait pas de défaut d'étanchéité. Et là, on est en train de dire la même chose par rapport aux problématiques donc de conception et de mise en œuvre. Et juste pour faire ce parallèle avec l'étanchéité à l'air, j'ai participé à beaucoup d'études sur ce sujet-là, et on a mis en évidence que les défauts d'étanchéité à l'air, les responsabilités entre conception et mise en œuvre, c'était moitié-moitié. Donc c'est à la fois la faute des ingénieurs architectes et à la fois la faute, et les deux problèmes, et je pense que ça doit être la même chose au niveau de la ventilation, c'est on oublie de mettre les bons produits ou carrément de mettre des produits pour participer à l'étanchéité à l'air. Et parfois, malheureusement aussi, c'est lorsque ces produits sont prescrits, ils sont mal mis en œuvre. Parce que la chaîne, elle est pas forcément... continue entre les acteurs du chantier. Mais justement, je voulais voir par rapport au chantier.
Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, les responsabilités, elles peuvent être partagées, notamment ici, pour l'étanchéité, 50% conception, 50% mise en œuvre. Sauf qu'en général, tout ce qui vient de la conception coûte après beaucoup plus cher à réparation que ce qui vient de l'exécution. C'était juste une petite...
Je me permets justement de faire ce parallèle entre l'étanchéité à l'air du bâti et l'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation. Ce que vous avez vécu et ce qu'on a vécu nous en accompagnant les projets au niveau de l'étanchéité à l'air des bâtis il y a donc 8-10 ans, c'est exactement ce qu'on vit depuis 2 ans sur l'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation. C'est-à-dire que les entreprises ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ne savent pas comment ça se contrôle, ne sont pour certains même pas en connaissance des différentes exigences. Donc on se retrouve, on se retrouve dans exactement les mêmes situations et on arrive en effet des problèmes de conception, des problèmes d'installation, mise en œuvre et tout ça.
Simplement pour terminer sur ce propos-là, moi à l'époque effectivement où sur le territoire national français on préparait la RT 2012, j'ai eu la chance de me former auprès de nos amis les Helvètes qui effectivement étaient déjà un petit peu en avance sur la construction passive. Et ils résumaient assez bien en fait ce changement de paradigme qui était attendu par rapport aux exigences de performance énergétique. Et pour eux ça se résumait à un élément très symbolique, c'était l'utilisation, vous savez, du fameux pistolet à joint. C'est-à-dire que, en fait, il était révélateur d'un défaut de conception et d'un défaut d'intelligence collective. Il disait là où commence l'utilisation du pistolet à joint, s'arrête l'intelligence quelque part. C'est-à-dire que, faute d'avoir pu résoudre en amont tous les détails qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif de façon collective, eh ben il se résout individuellement à traiter les choses avec une forme de masquage qui ne peut pas être pérenne, quoi.
Je vais pas vous lancer sur le sujet de l'étanchéité à l'air parce que là on est encore là pendant 2 jours parce qu'on est en train de mener, on vient de finaliser une étude sur la durabilité justement de l'étanchéité à l'air.